Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission comme chaque vendredi en partenariat avec le journal Libération.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母亲达玛加正忙着。
Comme chaque vendredi donc, avec Libération, nous vous proposons une table ronde sur un thème d'actualité internationale. Celle que nous retenons ce matin nous emmène en Syrie. Malgré les sanctions qui fusent de toutes parts depuis l'Union européenne, la Turquie, en passant par la Ligue arabe, la Syrie garde sa ligne ultra répressive et continue de mater la contestation. Viols, enlèvements, tortures et autres violences extrêmes sont le quotidien de la population syrienne aujourd'hui. Jamais les tensions n'ont été aussi fortes. Pour autant, l'issue de cette révolte reste toujours aussi incertaine entre le risque d'une véritable guerre interconfessionnelle, l'hypothèse d'une action militaire étrangère, le retournement de l'armée contre le régime de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, il est bien difficile, voire impossible, de prédire ce qui va se passer dans les semaines qui viennent en Syrie. On va parler de toutes ces incertitudes syriennes avec nos trois invités. Comme chaque semaine, un journaliste de Libération, c'est Jean-Pierre Perrin qui s'y colle aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Journaliste donc évidemment à Libération, spécialiste de la région. Vous étiez d'ailleurs pendant plusieurs jours au Liban, à Beyrouth. À vos côtés, Leïla Sera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous doctorante attachée aux séries, vous faites une thèse sur la diplomatie du Hamas. Et enfin, notre troisième invité pour cette table ronde, Youssef Courbache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous démographe à l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. Vous êtes co-auteur de La Syrie au présent, reflet d'une société. C'était chez Actes Sud. Mais avant d'ouvrir notre table ronde avec vous, comme chaque vendredi dans Culture Monde, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Long. Et celle que nous recevons aujourd'hui a reçu d'ailleurs le prix Albert Long, c'était en 2006. Elle nous revient tout juste et bien justement de Syrie.
Sous bonne escorte, nous rejoignons la manifestation. Quelques centaines de personnes bravent l'interdiction de descendre dans la rue. Des images rares. Jusqu'à présent, seuls les téléphones portables réussissaient à filmer les manifestations. Celle que le régime veut cacher au reste du monde. Le jeune homme qui m'avait donné son t-shirt harangue la foule. Dans la foule, des hommes de toutes les générations, quelques femmes et au premier rang des enfants.
Bonjour Manon Loiseau. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes grand reporter. Je rappelle que vous êtes prix Albert Long 2006. C'était pour ce film La malédiction de naître fille. Ce qui me permet de rappeler aux éditeurs qu'on est tous les vendredis sur ce retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Long. Première chose, Manon Loiseau. Donc vous signez ce documentaire qui a été diffusé hier soir sur France 2, produit par Kappa, dans Envoyé spécial. Aujourd'hui, évidemment, les journalistes ne sont pas autorisés à rentrer en Syrie. On sait combien il est crucial pour le régime, pour Bachar al-Assad, d'empêcher ces journalistes de rentrer sur le terrain, évidemment, pour ne pas révéler au monde entier ce qui s'y passe. Comment est-ce que vous êtes parvenu quand même à échapper à la vigilance de l'armée qui contrôle quand même les frontières ?
Ah bah c'était très très compliqué, c'était un jeu de cache-cache permanent. Déjà pour rentrer, j'avais pris contact avec plusieurs réseaux et c'est finalement... Très honnêtement, je ne pensais pas, d'ailleurs on s'était croisé avec Jean-Pierre à Beyrouth avant, je ne pensais pas que j'allais pouvoir rentrer. Déjà je voulais aller jusqu'à la frontière et on a eu de la chance de rencontrer un des leaders du Conseil révolutionnaire de Homs qui était venu au Liban pour acheter des poches de sang parce qu'il y a une catastrophe humanitaire à Homs. Les miliciens du régime, les Chabira, rentrent dans les hôpitaux et exécutent les blessés. Ils me racontaient qu'en fait ils avaient créé un certain nombre de field hospitals, donc d'hôpitaux de campagne pour soigner les blessés. Et alors qu'on lui parlait, il a reçu un coup de fil de Homs lui disant que, en fait, les trois quarts de ces hôpitaux de clandestins avaient été détruits encore par les Chabira et que trois médecins avaient été arrêtés et tous les blessés aussi. Donc, bon, on a fait cette route avec lui. Il avait un réseau de passeurs. On est rentré par la frontière du Liban. Là, c'est assez surréaliste parce qu'en fait, déjà, il faut traverser toute une zone au Liban, qui est vers Wadi Khaled, enfin, qui est dans le nord du Liban, et qui, en fait, où il y a des barrages de l'armée libanaise partout qui n'ont pas franchement envie que les journalistes soient là. Ouais. Et ensuite, on passait à travers ces checkpoints. Ensuite, on arrive à la frontière syrienne qui, en fait, finalement, ressemble... On est dans un champ, et parce qu'on se retrouve face à une...
Un talus. Ouais.
Et on nous dit...
c'est de l'autre côté.
Run, courez, c'est de l'autre côté. Donc, on franchit ce talus qui fait, je sais pas, 3-4 mètres, et on se retrouve en Syrie, en sachant que l'armée syrienne a quand même complètement miné la frontière, et ils avaient miné vraiment énormément la frontière quelques jours avant notre passage, donc pas très rassurés, en même temps, voilà, on y est. Et là, il y a des motos qui nous attendent de l'autre côté. Et on part, et c'était des soldats déserteurs de l'armée syrienne qui sont donc autoproclamés l'armée libre de Syrie, qui était... qui nous ont escortés, qui nous ont accompagnés en fait tout le long du village, du voyage. Et la première chose qu'on a fait, c'est arriver dans un village qui était une position de l'armée libre de Syrie. Et c'est vrai qu'ensuite, pour faire moins de 50 km, aller jusqu'à Homs, ça nous a pris 4 jours. Et pendant ces 4 jours, ça a été une partie de cache-cache permanente avec les troupes du régime qui étaient à chaque fois à 200 ou 300 mètres. Donc on faisait 10 minutes en voiture ou 10 minutes à vélo, à moto. Et là, il y avait en permanence, s'ils étaient en liaison avec des téléphones portables qui leur donnaient précisément la place des checkpoints. Donc c'était, ils sont, en fait, ils ont certains déserteurs quand ils sont partis de l'armée ont pris les talkie-walkie et arrivent à avoir les fréquences de l'armée syrienne. Donc par ça, et ils ont aussi des gens postés partout, les villageois aussi qui les renseignent. Donc nous, notre passage, en fait, c'était tous les 200 mètres, on pouvait tomber sur un barrage. On a manqué, on va dire, une quinzaine de fois à une minute près. On était arrivé sur ce barrage. Et il faut voir que les gens avec qui on était ont déserté, donc sont condamnés à mort. Voilà, donc c'était en permanence ce jeu de cache-cache-là. Et donc, c'était pas facile. Après, à Homs, ça a été vraiment une continuité de la plongée dans la terreur.
Manon Loiseau, il y a quelque chose qui m'a étonné hier dans votre reportage. On le sait, il y a beaucoup de désertions. On quitte l'armée pour rejoindre l'armée syrienne libre. Et à un moment, dans votre reportage, vous dites « Mais je croyais que ce village-là était contrôlé par l'ASL, l'armée syrienne libre ». Aujourd'hui, c'est quoi, en gros, l'effectif de cette armée-là ? Et est-ce qu'ils sont véritablement en capacité, surtout, de contrôler des territoires entiers et des villages entiers, comme on a l'impression de le comprendre dans votre reportage ? Parce que nous, on a un peu l'impression que, pour l'instant, c'est des choses très disparates, il y a des forces par-ci, par-là, mais qu'il n'y a pas vraiment une cohésion dans tout ça.
Écoutez, moi, j'ai eu l'impression de quelque chose de plutôt organisé, en tout cas, là où on était. Donc, c'est pas... Après, c'est une partie du territoire syrien. Ils se revendiquent 15 000. C'est un chiffre qu'on peut absolument pas vérifier. Mais en tout cas, quand on était là, il y avait tous les jours des déserteurs. Ils nous disaient qu'en fait, à l'intérieur de l'armée de Bachar el-Assad, ils ont énormément de gens qui les renseignent. Donc en fait, c'est aussi comme ça qu'ils arrivent à déjouer et aussi à contre-attaquer, à savoir où sont positionnées les troupes. Quand on était dans ces villages, il y a effectivement des villages qui étaient complètement sécurisés. On ne pouvait pas vraiment sortir.
Ça veut dire que l'armée ne va pas dans ces villages parce qu'elle sait que l'ASL, l'armée syrienne libre, contrôle ces zones-là ?
Écoutez, nous, ça nous a permis d'y être. En tout cas, donc nous, on savait... Là, il n'y avait pas... En tout cas, il y avait pas... Les tanks de Bachar el-Assad étaient à 200 ou 300 mètres, mais ne rentraient pas. Par contre, le jour où ces soldats qu'on filmait, ces soldats déserteurs sont allés sur le front de Homs, dans les heures qui ont suivi, l'armée de Bachar el-Assad est rentrée dans le village où on a filmé la manifestation justement, parce qu'ils savaient que les 300 ou 400 soldats déserteurs étaient partis sur le front de Homs. Encore une fois, c'est très difficile d'avoir une impression globale, parce qu'on est forcément... on peut passer grâce à ces gens de l'armée syrienne libre, donc on ne voit pas tout. Mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a pu traverser une partie, une succession de villages qui étaient quand même relativement sécurisés par ces soldats de l'armée libre, qui aussi permettent, en fait, aux gens d'aller manifester. C'est-à-dire que ce soit à Kousser, donc la ville, on est passé par là, dans d'autres villages ou à Homs, les gens aujourd'hui peuvent manifester tous les jours parce qu'autour, il y a tout un cordon de cette armée libre. Et nous, quand on a un moment donné, on est pris sous le feu à une manifestation à Homs, en fait, il n'y a pas eu des morts et des blessés, mais ça a été un feu nourri pendant presque une heure, parce que l'armée syrienne libre a riposté. On est passé, pour rentrer à Homs, on est passé par le quartier de Baba Amar, qui est pilonné depuis 3 semaines. Moi, là, j'ai découvert un quart de ce quartier, et c'est quand même, ça m'a fait penser à des images de Tchétchénie, c'est-à-dire que c'est bombardé, des maisons éventrées, les gens vivent à l'intérieur, il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage, il y a des snipers qui tirent sur les gens qui vont chercher du pain. On a interviewé une famille, l'homme avait enterré 4 personnes la veille, qui étaient juste allées chercher du pain. Il y a tous les jours des enfants qui meurent sous le tir des snipers. Les enfants sont des cibles, sont absolument des cibles dans cette révolte qui est devenue, en fait, en tout cas à Homs, comme une guerre, une guérilla urbaine. Donc tous les jours, quand j'étais à Homs, il y avait des victimes d'enfants de 3, 5 ou 7 ans.
Voilà. C'est une des choses que vous expliquez dans votre reportage, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ces manifestations, il se trouve que les enfants sont en première ligne. D'ailleurs, on a du mal à comprendre comment ça se fait qu'ils sont en première ligne, ces enfants-là. Et ils sont clairement pris pour cible, c'est ce que vous expliquez par l'armée. Hein.
Oui, ils sont complètement pris pour cible. Alors après, c'est vrai que c'est parti de cette révolte d'enfants, ces graffitis d'enfants sur un mur en mars, qui ont été torturés dans un commissariat. Et ensuite, il y a eu le début des manifestations et que les familles ont emmené les enfants. Les enfants continuent à aller dans les manifestations. Il n'y en a pas dans toutes les manifestations, mais c'est vrai qu'ils sont des cibles autant que les autres. Et après, la torture...
Y a autant le rapport que les autres ou privilégiés, est-ce que vous avez senti... Après, c'est encore une fois, c'est des impressions, mais est-ce que vous avez le sentiment que quelque part, l'armée fait exprès de s'en prendre aux enfants, peut-être pour provoquer éventuellement les manifestants, pour les faire réagir, peut-être pour les faire aussi... on sait que la question de la militarisation de cette rébellion va être essentielle dans l'issue de tout ça, mais est-ce que vous avez le sentiment aussi que c'est volontaire, c'est pas un hasard, c'est...
Non, c'est pas du tout des balles perdues. Donc c'est les témoignages, on a pu interviewer plusieurs enfants, un enfant qui a été torturé à l'électricité de 13 ans, un enfant de 15 ans qui a essayé de sauver une petite fillette de 5 ans qui avait reçu des balles d'un sniper, qui est morte, et lui a pris 3 balles en essayant de la sauver, et la maman avec son enfant, son fils de 3 ans, qui avait reçu une balle aussi d'un sniper dans une manifestation. Donc ce sont des tirs, c'est ciblé. Alors après, est-ce qu'ils ciblent les enfants? C'est impossible de le dire. Mais en tout cas, ils les ciblent autant que les autres. Et rarement, moi, en tout cas dans les conflits que j'ai couverts auparavant, je n'ai jamais vu des tirs délibérés sur des enfants. Il y a des enfants qui meurent dans des bombardements, mais pas qu'on vise des enfants. Ça, c'est quelque chose d'assez inouï. Je pense que de toute façon, le but là, c'est de faire régner la terreur. Non, on est arrivé à Homs au moment en fait, où ils encerclaient complètement la ville, au moment où il y avait la décision de la Ligue arabe. Et donc la situation était très, très, très tendue. Et ce que nous disaient les gens, c'est qu'ils sont devenus complètement fous, les gens de Bachar al-Assad, avec cette décision de la Ligue arabe. Et finalement, ils n'ont plus rien à perdre. Donc c'est un déchaînement de violence. Pendant qu'on y était, il y avait des kidnappings qui ont commencé. On m'a raconté, encore une fois, on ne peut pas vérifier parce qu'on passe 70% de son temps à se cacher. Et ensuite, on essaye d'avoir les rares témoignages qu'on peut avoir. Chaque personne qui parle, c'est une condamnation à mort si on le reconnaît. Donc c'est difficile d'aller au fond des informations. Mais on me racontait que des Chabira, donc les miliciens du régime, sont rentrés dans une école, ont kidnappé des enfants, ont demandé une rançon. Les parents sont venus pour donner la rançon. Ils ont kidnappé les parents. Donc on sent qu'il n'y a plus de limite. Et peut-être aussi qu'ils sentent que ce n'est pas la fin. Mais en tout cas que... voilà, c'est une course folle dans la terreur.
Alors, on va voir justement si c'est la fin, et l'impression qu'ils ont, c'est en tout cas ça, c'est un des témoignages qu'il y a à la fin du documentaire. Il y a un jeune homme qui vous dit « on n'a jamais été aussi proche de la liberté ». Je vais y venir, mais encore une fois sur cette question de l'armement. Il y a un moment dans le reportage où vous discutez avec l'un des déserteurs qui vous montre ses armes, etc. Et il commence à vous expliquer, on a l'impression qu'il va vous dire que les armes viennent d'autre part que de l'armée. En tout cas, c'est ce qu'on sent.
Il est très vite recadré, d'ailleurs.
Très vite, le chef lui dit arrête, on arrête de parler, etc. Ouais. etc. Et on n'en sait pas plus, au fond. Qu'est-ce que vous avez, vous, compris de cette situation-là? Est-ce que ces armes qu'on vous montre, ce sont des armes qu'on a récupérées à l'armée syrienne au moment où on a déserté? Ou est-ce que ce sont des armes qui viennent d'autre part? Et si c'est le cas, où?
C'est très difficile de dire. Voilà. Moi, il y a eu ce moment-là, et ensuite, très vite. Mais non, pas du tout, c'est les armes qu'on prend.
Est-ce qu'il vous dit c'est la Russie qui les donne? Vous voyez bien, c'est des armes russes.
Ça fait depuis toujours que la Russie fournit en armes la Syrie. Non, moi je pense ils doivent certainement recevoir des armes d'ailleurs. Après, d'où, c'est difficile de le dire. Il faudrait pas y passer plus de temps.
Mais en tout cas, s'il y a un malaise, on peut imaginer qu'en effet, la situation n'est pas parfaitement claire.
Si, bah oui, la situation paraît pas parfaitement claire, mais en même temps, de l'autre côté, il y a une présence des Iraniens, une présence du Hezbollah, et eux reçoivent certainement des armes d'ailleurs. Ils sont de plus en plus organisés quand même, hein, cette résistance armée. Donc Jean-Pierre a peut-être plus d'informations que. Mais c'est
Jean-Pierre Perrin.
Simplement, oui, j'ai rencontré quelques officiers libres le long de la frontière libanaise. Enfin, officier libre, entre guillemets. Bon, c'est vrai que les témoignages qu'ils nous donnent sont à peu près les mêmes que les tiens. Quant à la question des armes, à l'évidence, ils n'ont pas d'armes lorsqu'ils se réfugient au Liban. Ça serait un casus belli avec l'armée libanaise. Mmh. Et d'ailleurs, ils craignent énormément cette armée libanaise qui leur court après. Et il y a eu 4, semble-t-il, enlèvements de Syriens qui s'étaient réfugiés au Liban, en particulier 3 frères dont on sait que l'un d'entre eux déjà est mort sous la torture. Quant aux armes, il semblerait, hein, c'est à peu près les informations qui circulent au Liban, à confirmer évidemment si c'est possible, que la Turquie leur en livre, mais qu'elle ne le veut pas le faire par sa frontière terrestre, ce qui l'exposerait beaucoup, et que donc les livraisons se feraient depuis Chypre, depuis la partie turque de Chypre exactement, jusque sur le littoral syrien, mais une information au conditionnel, évidemment, tant qu'elle elle est en effet invérifiable.
C'est un peu les informations que j'ai eues aussi. Après, c'est, encore une fois, c'est très difficile de vérifier. Comme l'armée libre nous parlait tout le temps, regardez, l'Iran arme l'armée de Bachar, et on nous promettait de nous montrer des armes iraniennes, et on n'a jamais pu les voir. Un jour, on nous a dit, il y a un chauffeur de taxi qui est en fait quelqu'un du Hezbollah, et qui a avoué avoir tué 5 civils. On l'a, vous allez pouvoir l'interviewer. On a attendu, et on ne l'a jamais vu. Donc, on est en permanence en train d'essayer de saisir mieux, mais c'est très, très difficile.
Manon Loiseau, là, dans ce documentaire, vous êtes en permanence avec des hommes de la rébellion. Est-ce que vous avez rencontré des Syriens, des Syriennes qui, au fond, sont un peu à l'écart de tout ça? Je dirais la majorité est silencieuse, qui, pour l'instant, en tout cas, reste un peu à l'écart de ces manifestations. Ou est-ce que vous n'avez pas réussi à rencontrer ces gens-là?
Non, je n'ai malheureusement pas réussi.
Vous auriez voulu?
Oui, bien sûr que j'aurais voulu. Une fois à Homs, on n'était plus avec les gens de l'armée syrienne libre. On était avec des blogueurs, des gens du Conseil de révolutionnaire de Homs qui n'ont. Voilà, il y a toutes les classes se mélangent. Il y a des hommes d'affaires, il y a des banquiers, il y a des ouvriers. C'est vraiment très, très 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 divers. Donc c'est pas eux ne sont pas contrôlés du tout par l'armée. Donc j'ai pu rencontrer cette maman avec ses enfants. Elle n'est pas du tout une révolutionnaire. Elle n'est pas dans les comités d'organisation. Voilà, j'ai pu rencontrer une famille dans les ruines de Baba Amar. Donc ça, c'était des gens que j'aurais pu croiser dans la rue. Mais tous étaient là, tous m'ont dit, et ces gens à Baba Amar nous disaient, on veut la fin de ce régime parce qu'on veut que nos enfants aient accès à l'éducation. Tous descendaient, tous ceux que j'ai rencontrés, encore, tous les soirs, dans la rue. 8 mois après le début de la révolte, en risquant leur vie.
Ce qui est insensé, pardon Jean-Pierre Perrin, je vous donne la parole, ce qui est insensé, c'est qu'évidemment, ils le veulent, mais ils y croient.
C'est incroyable.
Cet homme-là qui vient vous voir à la fin du reportage et qui vous dit « Mais jamais on a été aussi proche de la liberté !» Et que quelques secondes après, il y a des tirs qui retentissent et que tout le monde, évidemment, prend ses jambes à son cou pour s'en aller. On se dit « Mais attendez, on est quand même... » On a le sentiment, en tout cas, que rien n'est sûr. Comment cet homme-là a cette conviction qu'on y est presque, quoi?
Mais parce qu'en fait, 8 mois d'une telle violence et 8 mois d'un peuple qui continue d'y aller tous les jours et qui paie, et où il y a des morts tous les jours, des blessés tous les jours, voilà, bien sûr qu'ils y croient. Je pense qu'on sentait très clairement qu'en tout cas, la peur telle qu'elle existait avant, chez une partie de la population, avait disparu et qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout.
Jean-Pierre Perrin, juste avant d'ouvrir notre table ronde.
Oui, une question. On sait que Homs est une ville multiconfessionnelle, même si la grande majorité de la population est sunnite. Il y a une minorité alaouite importante, une minorité chrétienne également. Est-ce que vous avez rencontré, lors de notre séjour à Homs, des chrétiens et surtout des alaouites qui seraient du côté de la rébellion?
Malheureusement, non. On n'a pu rencontrer que des sunnites. Je sais que une journée où on était à Homs, on nous a dit qu'il y avait un regroupement d'alaouites qui manifestait... pas en faveur de la révolution, mais en tout cas pour dire qu'ils étaient contre la répression à ce point-là, parce qu'il y avait eu trop de morts à Homs. Encore une fois, j'ai voulu y aller, on n'a pas pu, parce que les quartiers étaient encerclés. Donc non, je n'ai pas pu rencontrer ni de chrétiens, ni d'alaouites. Quand on était dans un des villages juste avant d'arriver à Homs, il y a eu un corps en fait, d'alaouites qui a été déposé dans un village sunnite. Et en fait, le lieutenant Abdallah, donc, qui a été exécuté en fait, il y a 4 jours, a dû passer la journée pour essayer de pacifier le village, parce qu'entre-temps, le village village alaouite avait kidnappé 6 sunnites. Donc ça, c'est, il y a en permanence des provocations, et lui pensait que c'était les Shabira, donc les miliciens du régime, qui avaient fait ça pour créer cette guerre interconfessionnelle. Donc c'est vraiment... ça, c'est quelque chose, mais c'est un sentiment qu'on a eu sur une semaine.
Merci beaucoup Manon Loiseau d'être passée dans nos studios, merci infiniment. Je rappelle votre documentaire produit par Kappa et diffusé hier soir dans Envoyé spécial sur France 2. D'ailleurs, on peut le revoir sur le site de France 2. On va ouvrir notre table ronde toujours sur la Syrie avec Jean-Pierre Perrin, Libération, avec qui on est en partenariat, avec Leïla Serra, qui est doctorante rattachée aux séries, et Youssef Courbage, démographe à l'INEL. Dégage Bachar, tu n'as plus de légitimité. Bachar menteur, la liberté n'est plus très loin. Il est temps de t'en aller. Voilà ce que reprenait la foule à Hama. C'était le 27 juin dernier. Alors cette liberté, elle est toujours pas là, bien sûr. Pour combien de temps? C'est toute la question qu'on va se poser aujourd'hui. En tout cas, l'auteur de cette chanson, lui, a été retrouvé mort, lui aussi, il y a quelques jours. Égorgé il y a quelques jours également. En tout cas, le titre qu'on a retenu pour cette émission aujourd'hui, c'est « Le peuple sans l'aimer, l'intraitable maison Assad ». Le peuple sans l'aimer, évidemment, un écho assez direct, un clin d'œil au livre de Bernard-Henri Lévy et sur, évidemment, l'intervention en Libye. La première question que j'ai envie de vous poser aux uns et aux autres, c'est précisément cette question de l'intervention, parce que longtemps, on a dit « bon, on l'envisage pas ». Et là, on commence un peu à le voir ces derniers jours, ces dernières heures même, on commence un peu à l'évoquer. On disait tout à l'heure, la Turquie peut-être commence à donner des armes, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas peut-être aux rebelles. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être, davantage que les semaines passées, une intervention armée serait possible? Si oui, dans quel cadre? On sait peut-être aussi que Paris et Londres en discuteraient plus ou moins avec Ankara. Allez, premier tour de table, Jean-Pierre Perrin.
Bon, ce qui est certain, c'est que les massacres vont continuer, ils ne vont jamais s'arrêter, que les deux camps sont déterminés, le camp de Bachar el-Assad à ne pas céder d'un iota. On l'a vu, face aux injonctions de la Ligue arabe, il ne bouge pas. Le camp de l'opposition ne va pas s'arrêter non plus. La marche arrière n'est plus possible pour les opposants. Donc évidemment, on va dans une situation de massacre permanent. Au bout d'un moment, la communauté internationale va être contrainte, obligée à faire quelque chose. Alors maintenant, reste à définir la forme qu'elle prendra, cette intervention. Et là, je crois qu'encore rien n'est franchement décidé, même si...
Mais on commence à en parler.
Oui, on ne peut pas faire autrement. Je crois qu'on est à 4500 morts d'après les derniers rapports, mais en fait, on est autour de 10 000, peut-être. C'est impossible de savoir exactement. Mais il est certain qu'on est dans une exponentielle des tueries. Même si ce qu'a fait Bachar à ce jour... n'est pas plus terrible que ce qu'a fait son père auparavant, mais c'était beaucoup plus limité, c'était beaucoup plus circonscrit. Et je rappelle le massacre de Hama en 1982, entre 15 000 et 20 000 morts à peu près.
Allez, on continue le tour de table. Leïla Serra.
Écoutez, moi je suis assez d'accord avec M. Perrin. Je pense que pour l'instant, l'heure n'est pas à l'intervention militaire et je ne vois pas bien... Moi, si j'étais à la place d'Erdogan, je ne vois pas pourquoi j'interviendrais en Syrie. Pour l'instant, mes intérêts ne sont pas assez menacés. On parle beaucoup de relations économiques. La Turquie est en train de s'affaiblir économiquement parce que beaucoup de ces échanges se font avec la Syrie. Je ne pense pas que ce soit une raison suffisante.
Oui, en même temps, je
ne
suis pas sûr que l'économie turque tienne sur ces échanges avec la
Syrie.
Non,
moi non plus, voilà, c'est pour ça que je vous dis.
Première remarque, et peut-être deuxième remarque, la question qui vient derrière, et je vais vous la poser aussi à vous, Youssef Courbage, c'est au fond, est-ce que les sanctions économiques, je mets des guillemets à tout ça, prises par les uns et les autres, et notamment par Ankara, est-ce que ce n'est pas aussi le stade intermédiaire avant l'autre chose, et ce autre chose qui serait une intervention militaire, Youssef Courbage?
Personnellement, je ne crois ni aux sanctions économiques parce que la Syrie a une économie faible, donc une économie de subsistance. Ce n'est pas les mesures de rétorsion économique ni de la Ligue arabe, ni de la Turquie, ni de l'Union européenne qui vont y changer quoi que ce soit. D'autre part, je ne crois pas du tout à l'intérêt d'une intervention militaire en Syrie. Je pense qu'elle sera complètement contre-productive. Elle pourra au contraire agréger des neutres autour du pouvoir syrien. Et je voudrais rebondir sur le fait du massacre des enfants. Comme je suis démographe, Je pense qu'il y a consciemment ou inconsciemment chez les Shabiha et chez les tortionnaires le besoin de tuer les enfants. Parce que la Syrie est un pays qui a un régime démographique très différent. Vous avez d'un côté les minorités du pouvoir et celles qui sont agrégées au pouvoir, qui ont un régime démographique de type européen. L'indice de fécondité des Alaouites et des chrétiens ne dépasse pas 2 enfants, ouais. C'est-à-dire autant qu'en France. Tandis qu'à Homs, Hama, Deir ez-Zor, Alep, Hasaké, vous êtes à 4 enfants. Donc il y a chez eux le besoin de tuer cette vitalité démographique des régions centrales de Syrie et steppiques de Syrie pour se venger de cette explosion démographique qui les menace.
Et alors, attendez, et je vous donne la parole, Jean-Pierre Perrin. Si on reste sur cette question démographique, est-ce que le fait que ça soit Homs qui aujourd'hui cristallise un peu toutes les tensions, hein, c'est un peu le pivot, disiez-vous, de la contestation, Jean-Pierre Perrin, dans l'un de vos papiers, est-ce qu'on peut l'expliquer aussi d'un point de vue démographique ?
Tout à fait, oui.
Dites-nous.
Homs est une ville qui, à l'origine, était une ville sunnite, grec-orthodoxe, avec très peu de halawites. En 50 ans, depuis 1963 jusqu'à maintenant, il y a eu une sorte de colonisation intérieure de peuplement, avec une population alaouite de plus en plus nombreuse qui s'est greffée sur la population de Homs, aux périphéries notamment. Et ceci est une tactique très fréquente. Vous avez la même chose à Damas. À Damas aussi, beaucoup de halawites se sont installés pour dominer. La seule ville qui a résisté, c'est Alep. Alep n'a pas accueilli, ne s'est pas porté volontaire pour accueillir les éléments du pouvoir.
Hama aussi, non ?
Et Hama aussi, bien sûr. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a des composantes démographiques extrêmement importantes qui jouent en filigrane de ce conflit. Et c'est dommage que la presse n'en parle pas.
Jean-Pierre Perrin, et puis Leïla Sera. Oui.
Sur la question des sanctions, je voudrais apporter une nuance sans être foncièrement en désaccord avec vous. C'est que simplement, les sanctions sur la masse de la population qui reste à peu près neutre, ou qui n'ose pas s'engager, ou qui croit encore que le régime a un avenir, je crois que là, lorsqu'elle voit des trains de sanctions tomber les uns après les autres, j'ai l'impression que cette fraction de la population qui reste encore un peu dans l'expectative, ça lui montre quand même que les jours du régime sont comptés et ça l'amène peut-être à rejoindre le camp de la contestation.
Et pour rebondir sur ce Manon que vous dites, moi j'ai senti vraiment ça à Homs. C'est-à-dire que la position de la Ligue arabe, un positionnement quand même de l'Europe pendant que j'y étais, vraiment, on ressentait ça très fortement. Et ce qu'ils réclamaient tous, mais vraiment tous, c'était cette fameuse no-fly zone, ouais. Cette zone d'exclusion aérienne, ne serait-ce que pour avoir, pour permettre à la Croix-Rouge d'évacuer les blessés. Parce qu'il y a une situation vraiment humanitaire catastrophique à Homs. Les blessés ne peuvent plus aller dans les hôpitaux publics.
C'est quelque chose qui a considérablement bougé chez les Syriens, parce qu'au départ, c'était hors de question.
Oui, et là maintenant, une majorité, c'était pas du tout que les soldats de l'armée libre qu'ils disaient, c'était tous les gens qu'on voyait, s'il vous plaît, aidez-nous, surtout à Homs, parce que c'est assiégé. Encore une fois, il y a un problème d'approvisionnement en nourriture, en tout, et il y a ce problème terrible pour évacuer les blessés. Donc les gens, enfin, c'est un appel à l'aide. Donc là, c'est très clairement, ils attendent de nous quelque chose, mais on le sentait. Chaque jour qui passait, c'était ce qu'on entendait. En fait.
Leïla Sera.
Oui, non, ce que je voulais dire par rapport à la no-fly zone. Une no-fly zone, en fait, ça revient à l'intervention militaire. C'est à peu près la même chose. Donc, même si aujourd'hui, les opposants, les manifestants, l'armée libre demandent la no-fly zone.
De Benghazi, en plus, c'est très
ils demandent la no-fly zone.
À Benghazi, voilà. Mais ils ne veulent pas d'intervention terrestre, c'est ce que je disais. Mais après, voilà. Effectivement, oui. C'est un début.
Non, c'est vrai qu'on reste au stade des incertitudes aujourd'hui. Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire ces jours sont comptés ou combien de temps il va rester. Je crois que vraiment, on est dans l'incertitude la plus totale. Parce que c'est vrai que ce régime a une double stratégie. La première, c'est militariser l'opposition. Et elle y est parvenue, puisqu'aujourd'hui, même le colonel Assad demande une aide logistique, militaire, etc. Mais je ne sais pas si on peut considérer vraiment que militariser l'opposition, ça va favoriser, renforcer le régime, puisque finalement...
Ah, on dit en tout cas depuis des mois que c'est ce qu'attend Bachar al-Assad.
Oui, c'est ce qu'il attend, mais aujourd'hui...
Qu'ils prennent les armes de sorte qu'on les voilà. mate radicalement et qu'on en finisse.
Mais les gens ne sont pas armés. Moi, je n'ai vu personne, des civils ne sont pas armés. Il y a vraiment, pour le coup, de plus en plus de déserteurs qui protègent les manifestants. Mais moi, je n'ai pas vu de civils armés. Les gens ne parlent pas du tout de s'armer eux-mêmes. Et on a même interviewé un soldat de l'armée du frère de Bachar al-Assad, donc la 4e division, qui avait déserté. Et ça, pour qu'il y ait des désertions à l'intérieur de ce régiment-là, ça veut quand même dire quelque chose. Et je pense aussi que plus il y a de violence, plus il y a de morts, plus quand même il y a de gens qui se joignent à la
contestation. Les populations civiles ne sont pas armées, mais aujourd'hui, l'opposition est armée. Puisque le CNS a fait une sorte de pacte et s'est rallié à l'armée syrienne libre. Oui. L'armée syrienne libre est armée, donc aujourd'hui, l'opposition syrienne est une opposition armée. Même si les populations civiles à Homs, Hama ou ailleurs ne tiennent pas les armes.
Ça dépend ce qu'on appelle opposition.
Ce qui peut éventuellement ça poser problème, dans le sens où aujourd'hui l'armée syrienne, s'il y a autant d'effections, c'est précisément parce que le peuple n'est pas armé et qu'ils ne veulent pas tuer des gens désarmés. Si on commence à avoir des armes de l'autre côté, peut-être que l'armée aura moins de difficultés à tirer sur les gens qui sont en face dans la mesure où ils sont armés. Donc il y a une double dynamique.
Je ne crois pas.
En même temps, ils n'ont aucune difficulté à tirer dessus. Donc...
Ils tirent sur la foule depuis le.
Non, mais je veux dire, ça va ralentir les défections, c'est ça que je veux dire, à l'intérieur de l'armée. Ça pourrait.
Non, là on sent vraiment. Nous, on était là, mais c'était. Il y avait des soldats qui en pouvaient tellement plus de tirer sur la foule, qui sont partis avec leurs tanks quand on est rentré dans Homs. On est arrivé dans une maison à Homs, il y avait un barrage en bas, et en fait, il y avait trois chabirats, les miliciens, avec deux soldats, parce que les habitants me disaient, c'est parce qu'ils mettent maintenant des chabirats, parce qu'ils ont peur que les soldats fassent défection, ils mettent des miliciens pour éviter que les soldats ne fassent défection. Donc, ces jeunes, on les envoie dans leur ville tirer sur leur famille. Donc,
Jean-Pierre Perrin et Youssef Korbach.
Les trois officiers que j'ai rencontrés le long de la frontière libano-syrienne avaient tous les trois participé à la répression. Ils avaient évidemment minoraient sans doute ce qu'ils avaient fait, mais ils avouaient quand même qu'ils avaient tiré sur la foule, ils disaient qu'ils n'avaient pas forcément touché des gens, mais l'un d'eux avait manié le bâton électrique, une arme assez terrifiante. Il arrivait en civil et avec son bâton, il repérait un ou deux meneurs dans la manifestation, un coup de bâton, le type était paralysé, il tombait par terre, immédiatement les soldats sautaient sur lui et s'emparaient. Donc il avait participé à l'arrestation, à des gens qui sont peut-être morts depuis. Donc, ça n'avait pas empêché par la suite de déserter. Simplement, je crois que l'opposition, la contestation évolue. Au début, elle s'est regroupée autour de trois noms. C'était non à l'intervention étrangère. Le second nom, c'était non à tout ce qui est violence. La contestation devait être uniquement pacifiste. Et la troisième, c'était non à la violence intercommunautaire. Or, ces trois noms explosent maintenant. C'est-à-dire qu'on assiste à une demande d'intervention étrangère, quelle que soit la forme qu'elle prend. Ça, c'est le premier nom qui a sauté. On assiste à un déferlement de la violence maintenant des deux côtés, avec l'armée syrienne libre. Et le dernier slogan des manifestations, c'était... À l'armée libre, nous lui demandons de nous protéger lors de nos manifestations pacifiques. Vous voyez, il y a une ambiguïté qui est une évolution assez notable donc des révolutionnaires, si on peut les appeler ainsi. Et puis le troisième nom qui était non au déchirement intercommunautaire, eh bien là, on s'aperçoit quand même que les Alaouites commencent à faire les frais de cette intifada.
On va revenir sur ce troisième nom, mais d'abord Youssef Korbach.
Oui, je pense qu'il est essentiel, et ça a été assez... mal analysé, malheureusement. C'est la démographie de l'armée et des forces de répression syriennes. À part un article du Canard enchaîné qui donnait une estimation quantitative qui paraît raisonnable, c'est-à-dire que vous avez l'armée AAA+, l'armée qui compte, celle qui fait la répression, qui compterait environ 30 000 soldats et officiers, qui, elle, est super bien armée, qui a les tanks, l'aviation, et qui pratique la répression avec les miliciens, les tontons Makoud du pouvoir. Et vous avez de l'autre côté une armée qui n'a peut-être même pas des munitions, et ça, je l'ignore, qui est enfermée dans ses casernes, qui n'a aucun pouvoir, d'où il peut y avoir des désertions, mais où les déserteurs partent avec des armes légères, comme on a vu dans votre film hier. Au maximum, c'était un petit lance-roquettes de rien du tout et des Kalachnikov qui sont le commun de la population. Donc, il me paraît essentiel de faire cette distinction au sein de l'armée syrienne. L'armée syrienne est loin d'être homogène. Elle n'est pas du tout, elle est probablement sujette à des désertions encore plus fréquentes. Mais il faut voir ce corps soudé de 30 000, ce qu'il représente, est-ce qu'il est attaquable ou pas?
Les chiffres vont jusqu'à 70 000 quand même de soldats ou d'éléments fidèles au régime. C'est en tout cas un des chiffres que donne l'opposition. Hein. 70-75 000 soldats et combattants fidèles au régime, sur lequel on n'a pas de doute sur la fidélité.
Sans compter les miliciens, les chabiras. Nous, en tout cas, ce qu'on voyait du côté de l'armée libre, c'est qu'ils font exprès de positionner les soldats qui ont déserté dans leur village. Donc c'est pour ça qu'ils sont très organisés dans leur village. C'est-à-dire qu'ils ils contrôlent leur zone et tous les habitants les connaissent. Et donc, il y a une solidarité comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait une vraie organisation et une vraie... Enfin, pour le coup, il y avait des villages entiers. Et dès qu'il y a un mouvement de troupes, en fait, ce sont les hommes du coin qui protègent
les... Et ces soldats déserteurs ciblent en particulier les chabiyas, donc les miliciens.
Je voulais juste rajouter que les familles des soldats des déserteurs sont systématiquement arrêtées, torturées et exécutées. Donc, ils savent très bien que le moment où ils basculent, ils condamnent leur famille.
Leïla Zahra.
Oui, par rapport pour revenir un petit peu sur les trois noms, le dernier nom, je suis tout à fait d'accord, et c'est le nom finalement où l'opposition est passée à des violences intercommunautaires, et ça c'est la chose la plus dangereuse. On voit aujourd'hui qu'il y a des Kurdes qui font partie des Shabiha, donc ça c'est quelque chose de nouveau et qui est très grave.
C'est la grande question de ce risque d'un conflit interconfessionnel.
Voilà, qu'il faut prendre en compte, qui est réel, mais qu'il ne faut pas non plus, je veux dire, c'est quand même la propagande première du régime que de dire que la société syrienne est très fragmenté. Bon, c'est réel, mais si vous voulez, le régime joue depuis des années, et comme c'est le cas depuis des années 80, sur ces clivages intercommunautaires. Donc il ne faut pas non plus faire trop le jeu du régime et les accentuer, mais le risque est réel, je suis d'accord avec vous.
Risque est réel, et c'est d'ailleurs peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, Leïla Zahra, mais c'est peut-être aujourd'hui la meilleure carte pour le régime, pour rester en place. C'est-à-dire que plus le conflit interconfessionnel est fort, moins le régime est en danger. Enfin, je sais pas.
Je pense que c'est une de ses cartes, effectivement, parce que les autres cartes qu'il a tenté d'utiliser, pour l'instant, elles se révèlent être des échecs. La carte de l'internationalisation du conflit. On a vu ce que Bachar el-Assad essaye de faire avec les Palestiniens. Au mois de juin, il a envoyé les Palestiniens dans le Golan se faire massacrer. Aujourd'hui, il se passe des choses avec Israël. Des roquettes sont envoyées par Israël. On sait...
Par le Hezbollah,
Je ne suis pas sûre. Si vous avez confirmation, peut-être que vous avez raison. Moi, j'ai plutôt entendu...
La zone
est contrôlée par le Hezbollah, mais est-ce que c'est le Hezbollah lui-même qui a lancé les roquettes? Est-ce que le Hezbollah est prêt à jouer sa vie pour la Syrie, sa survie dans la scène politique libanaise? Ou est-ce que ce n'est pas des mercenaires palestiniens qui ont été payés par le régime de Bachar el-Assad? Bien sûr, le Hezbollah était au courant, mais ce que je veux dire, c'est que le régime a perdu cette carte, c'est-à-dire régionaliser le conflit, ça marche plus. Avec Israël, ça marche plus. Par contre, c'est vrai que la question communautaire, c'est une carte qui est jouable.
Youssef Kourbash d'abord, et puis Jean-Pierre Perrin, parce que je vous ai vu faire la moue quand on a dit que ce risque de conflit interconfessionnel, c'était peut-être la meilleure carte du régime. Vous n'aviez pas l'air d'accord, donc on va y venir. Mais d'abord, Youssef Kourbash.
Oui, il y a une autre carte que le régime joue comme épouvantail et qui n'est pas négligée, c'est celle de la partition de la Syrie. Qu'au cas où tout va à volo, le pouvoir pourrait se retirer sur la zone côtière qui va du Liban jusqu'à la Turquie et créer un État indépendant. Et avec tout le risque de propager cette fragmentation, cette balkanisation à l'ensemble du Proche-Orient, au Liban, à la Turquie, à la Palestine, évidemment, l'Irak, il est déjà dans ce cas de figure. Donc, c'est, à mon avis, pour le moment, c'est un épouvantail. Mais on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Il y a en tout cas beaucoup de critères qui permettaient, il y a déjà quelques dizaines d'années, de penser que le pouvoir, à l'époque, celui de Hafez al-Assad, préparait l'autosuffisance dans la région côtière.
Jean-Pierre Perrin, d'abord sur cette question de savoir si oui ou non, au fond, cette guerre interconfessionnelle serait la meilleure carte du régime pour rester en place. Et puis, deuxième chose intéressante qu'a soulevé Youssef Kourbash, cette possibilité, au fond, d'une partition de la Syrie. Mais d'abord, sur le risque interconfessionnel, Jean-Pierre
Perrin. Oui, il est bien évidemment réel. Et c'est évident aussi que le régime joue cette carte-là. Je ne sais pas si à long terme, en revanche, ça ne peut pas se retourner contre lui. Tout simplement parce que quand même, les sunnites sont quand même l'écrasante majorité de la population. Alors, qu'est-ce que le régime a entre les mains? Évidemment, les minorités, il joue la carte des minorités, mais pas seulement les chrétiennes, les alaouites, mais aussi il essaie de jouer la carte de la minorité kurde, par exemple. Donc, mais en fin de compte, si on a 60% de sunnites, voire davantage, 70%, eh bien, il va avoir quand même 70% de sa population, si on exclut un peu les marchands, une partie de la bourgeoisie d'Alep qui est sunnite et qui a ses intérêts liés avec le régime et donc qui soutient le régime. Mais il va se retrouver quand même avec une écrasante majorité contre lui, il l'a déjà. Donc, je ne crois pas que la solution à cette solution-là à long terme pour lui soit tenable. En plus, il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette armée, elle a 9 mois de combat dans les jambes, et qu'elle commence donc à fatiguer. Et avec la multiplication des petites embuscades, on en a vu une la semaine dernière, celle contre un bus de l'armée dans lequel 7 officiers ont été tués.
Encore une aujourd'hui.
Alors là, cette armée, elle va être de plus en plus fatiguée, et si elle est harcelée un peu partout, on n'est pas sûr qu'au bout du compte, ça profite au régime.
Leïla Sora.
Oui, non, par rapport à la partition, je trouvais que ce qui était intéressant aussi, et dont on parle très peu de ce cas, le cas irakien dans les médias, je pense que la Syrie aujourd'hui paye le prix de l'invasion américaine en Irak en 2003, et c'est ce pays qui paye le prix le plus cher de cette invasion. D'abord parce qu'il y a des milliers de réfugiés irakiens qui se sont retrouvés à Damas et qui ont rapporté le chaos irakien, et donc, comme vous dites, M. Kourbash, c'est l'épouvantail. Je veux dire, les Syriens ont très peur de tomber dans ce cas de figure. L'autre effet de cette invasion américaine, c'est, rappelez-vous, la Syrie était supposée être le pays, juste après Bachar al-Assad, était la cible. Après Saddam Hussein, c'était Bachar qui devait tomber. Et je pense que grâce à ça, il a réussi à noyauter aussi toute forme de contestation, à l'étouffer, parce qu'en 2003 et quelques années plus tard, quand on était opposant, on était le laquais de l'Occident. Donc je pense que l'Irak aussi joue un rôle majeur. Aussi, l'Irak, partition de l'Irak, c'est donner plus de place au nationalisme kurde. Et ce qui fait que ça a eu des conséquences en 2004 directement sur la Syrie. Il y a eu des tensions intercommunautaires entre Kurdes et sunnites. Et les Kurdes sont passés effectivement par le régime de Bachar al-Assad comme des laquais de l'Occident.
Mmh. Youssef Kourbash.
Oui, je voudrais nuancer un peu votre propos sur les sunnites. Les sunnites, contrairement aux minorités agrégées autour du pouvoir, qui ont une asabiya, un esprit de corps très fort au sens que Ibn Khaldoun lui donnait, les sunnites sont tout à fait hétéroclites. Entre un sunnite de Damas et d'Alep, il y a un abîme. Entre un bédouin de la région stépique et celui d'un kurde sunnite de la région de Hasakeh, il y a aussi un abîme. Ce qui fait qu'il faut relativiser ici le poids de la démographie. Je sais que ce n'est pas dans mon intérêt de le dire, mais dans ce cas-là, la démographie ne joue peut-être pas autant. Le fait qu'il y ait 70% de Syriens potentiellement opposés au pouvoir n'est pas un critère suffisamment pertinent.
Ah, Jean-Pierre Perrin, c'est...
Non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Non, on l'a vu de toute façon au début. La première ville à se soulever, c'est Dera. Il y a quelques soulèvements sur la côte ensuite, notamment à Latakié, déjà un petit peu à Homs, mais ça ne prend pas. C'est simplement après le châtiment quasiment biblique que le régime va faire subir à Dera que peu à peu, les villes vont se soulever les unes après les autres. On va avoir Hama qui va se soulever dans un deuxième temps, Homs à nouveau, des villes du Nord.
Et puis, on assiste quand même à une chose absolument étrange, c'est que toutes ces villes ne se soulèvent pas en même temps. Elles se soulèvent les unes après les autres. Ce qui va d'ailleurs provoquer une certaine fatigue de cette armée qui est obligée de passer d'une ville à l'autre. Mais enfin, si c'était soulevé tout ensemble, eh bien, peut-être que la situation serait assez différente. Donc, on s'aperçoit donc d'une des faiblesses de l'opposition, c'est qu'elle mobilise beaucoup, mais elle est incapable de coordonner les soulèvements ensemble.
Comment vous l'expliquez, ça, justement? Comment vous le comprenez, qu'on ne soit pas capable de coordonner, au fond, la contestation?
Il n'y a plus comme ça aujourd'hui.
Mais je pense que la contestation a été une histoire d'improvisation. Il ne faut pas imaginer que l'opposition contre le pouvoir s'est faite du jour au lendemain. Il y a eu d'abord un effet domino qui a joué.
C'est jamais le cas, sauf qu'il y a un moment, c'est vrai, où ça monte tellement qu'il y a la vague qui emporte tout et que ça flambe de partout.
En février, on jouait au jeu quel est le dernier pays qui risquerait de tomber dans le 2 ans. Et on ne mettait jamais la Syrie. La Syrie paraissait être le régime arabe le plus stable.
Ce qui est extraordinaire, c'est quand même Jean-Pierre que Perrin. Ce qui fait naître cette insurrection, tu l'as dit, Manon, c'est un fait divers, c'est-à-dire des enfants qui font des graffitis sur un mur, qui sont capturés par la police, qui sont torturés de façon absolument abominable. Et ce qui est extraordinaire, c'est lorsque les parents vont réclamer leurs enfants, ils s'entendent répondre par le chef de la sécurité: oubliez vos enfants, faites-en plutôt des autres, et si vos femmes ne savent pas les faire, amenez-les ici. Ce qui, évidemment, est absolument effroyable pour tout le monde, mais en particulier pour des gens d'une ville comme Dera, d'une ville de 70 000 habitants, assez fermée sur elle-même, assez tribale. Et donc, c'est la pire des insultes qu'on peut leur faire. Cette phrase, elle est vraie, elle a été certifiée par une quantité de personnes.
Par le grand romancier, notamment, qui a écrit La Coquille, traduit chez Actes Sud.
Absolument.
Khalife.
Voilà. Mais il la saura, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir. Je suis tout à fait d'accord avec, c'est l'étincelle qui a fait partir. Mais comment dire, selon moi, il faut toujours remonter dans l'histoire. La perspective historique, quand même, explique que c'est un fait divers qui a fait partir tout ce mouvement de révolte. Mais ce mouvement de révolte, comme c'était le cas en Tunisie, en Égypte et ailleurs, je veux dire, il n'est pas sorti nulle part. Chaque pays, si vous retournez dans l'histoire, je veux dire...
L'étincelle.
L'étincelle. Mais
ces jeunes gens n'étaient pas du tout politisés. Voilà.
Mais je pense qu'un retour, la perspective historique peut expliquer beaucoup de choses sur ce qui se passe aujourd'hui, notamment ce qui s'est passé à la fin des années 70. La révolte, bien qu'en 82, elle ait pris une tournure, c'était une cellule djihadiste qui a été éradiquée par le régime. À la base, cette contestation était sociale. Et donc, y a des similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui. À la fin des années 70, la petite bourgeoisie, les frères musulmans avaient réussi à mobiliser la petite bourgeoisie sunnite qui était, leur motif de mobilisation, c'était le régime. Bon, c'était le début de l'infitar, ce qu'on appelle libéralisation économique, etc. Mais des gens qui se sont sentis délaissés par un virage à droite du Baas et qui mobilisaient ensemble pour des motifs sociaux à la base. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a pris des proportions beaucoup plus importantes parce qu'il y a 30 ans de libéralisation économique. Mais comment dire, c'était cette clique qui monopolisait les richesses, la réforme agraire, etc. Donc c'est les mêmes... Il y a des similitudes dans la contestation, quoi, les motifs de cette contestation.
Youssef Corbage.
Oui, je pense que vous avez soulevé un point très important, c'est le rôle de l'histoire. Et je crois que nous ne connaissons pas suffisamment bien l'histoire longue de la Syrie qui explique aujourd'hui cette révolution. L'histoire de la Syrie à l'époque ottomane, puis sous le mandat français. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas qu'à un moment donné, il y a eu un état des Alaouites qui a été créé sous le mandat français qui a duré 6 ou 7 ans. Et que la Syrie a été découpée. Peu de gens savent aussi à quel point il y a eu des rancœurs, des rancœurs de classe entre les Alaouites et les populations dites féodales de Homs et surtout de Hama. Et tout ceci est en filigrane de la prise du pouvoir dans les années 60 du parti Baas, qui était en grande partie la couverture politique d'une grande partie de la minorité alaouite, et aujourd'hui de la réaction de cette majorité qui a été dominée pendant une cinquantaine d'années. Je crois que c'est très important de signaler l'histoire longue de la Syrie.
Merci beaucoup aux uns et aux autres, vous Youssef Courbage, Leïla Sera, et merci également à vous Jean-Pierre Perrin. On arrive au terme de cette émission, merci de nous avoir éclairé sur cette situation en Syrie. Peut-être qu'on va retenir sur cette table ronde aujourd'hui, c'est cette question de l'incertitude que vous mettiez en avant tout à l'heure, Leïla Sera. C'est peut-être le maître mot aujourd'hui sur la Syrie, c'est l'incertitude.
Est-ce qu'on peut juste rendre un très rapide hommage à Michel Sera, qui était l'un des premiers à écrire sur la Syrie, à dire vraiment ce qu'est le régime syrien et qui est mort malheureusement dans des conditions dramatiques en 1982. Rendons-lui hommage ici, d'autant que sa fille est parmi nous. انت مجرم انت وحش نازل فينا فينا الرش شبرش شو عملنا لك يا هالجحش عم تذبح وتقول من دس الشعب السوري ما بيطفش لك ارحل بقى يا اطرش يا بشار انت رح تنرش من عمح انا روني بش حاجة سبنا يا بهيم من دسين وجراسيم الحر السوري بالتصميم عم بيدوز نظامك العقيم الشعب مل من القديم ما بدنا الأسد اللئيم بدنا التجديد السريع عيشنا
Notre parole dans la rue est libre, elle crise, elle est là, la révolution Bachar dehors, avec toi la vie est devenue amère, on ne veut plus discuter ni parlementer, notre révolution est devenue célèbre, voilà ce que nous disent les paroles de ce rap syrien. Et puis en deux mots, j'en profite quand même pour rappeler qu'il y a un DVD très intéressant qui sort là, c'est le DVD sur le prix Albert Londres de l'année dernière, à la fois Une peine infinie, histoire d'un condamné à mort, ce film de David André, et puis également La route des talibans, c'était Emmanuel Duparc qui avait l'année dernière obtenu le prix de presse écrite à Albert Londres. Voilà, on peut retrouver tout ça en DVD. Culture Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe, notamment à la technique ce matin, Clément Daté, à la réalisation d'Oria Zeni.